Est-ce que l'on doit devenir survivaliste? Je sais pas si, comme moi, vous regardez beaucoup de films de science-fiction plutôt dystopiques, mais c'est vrai qu'on est projeté dans un imaginaire avec la réalité en parallèle de la crise climatique et de la crise du vivant de manière générale, qui nous envoie vers cette idée que demain, il va falloir se débrouiller et sortir de ce confort moderne, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bertrand Vidal, qui est sociologue et chercheur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, qui a écrit un livre autour du survivalisme, qui en a fait sa thèse en fait, et qui s'est imposé comme la référence incontournable dans l'étude de ce phénomène, le survivalisme. Et avec lui, on va parler des différences, de qui sont ces gens, de pourquoi, de comment se préparer aussi, de la différence entre, par exemple, vouloir vivre dans une ferme et être survivaliste. Bref, c'est une discussion qui est hyper intéressante parce que très actuelle, en fait, tout simplement, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Bertrand, comment tu vas aujourd'hui?
Bonjour, ça va bien. Et toi?
Ça va bien. Bah écoute, ça va pas mal. On va parler d'un sujet qui, je trouve, se développe énormément ces derniers temps. Mais toi, tu t'y es intéressé extrêmement tôt, finalement. Enfin, extrêmement tôt, mais très tôt. Et peut-être que la première question, aussi basique qu'elle soit, c'est d'où sort cette idée du survivalisme?
Oh, le survivalisme, en fait, c'est une vieille tendance. Vieille, je dirais, en fait, dans les années 1970, hein, c'est une contre-culture, en fait, qui est née d'une angoisse du moment, la peur du réchauffement de la guerre froide. C'était dans les années 70 et le terme a été inventé par un libertarien d'extrême droite, un personnage assez obscur. Kurt Saxon, le Saxon brutal, c'était son pseudo, hein, et il souhaitait préparer les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, à la menace rouge, ce qui pesait en fait sur son époque, c'était la possibilité d'une invasion des communistes sur le sol américain. Et donc il a théorisé ce terme, il a proposé le néologisme survivalisme, une doctrine qui vise en fait à inviter les individus, les WASP essentiellement, à fuir la ville et à se terrer dans des bunkers ou à vivre le plus loin possible des dangers de son temps. Moi, j'ai découvert cette culture-là aux alentours des années 2010-2012, en fait. C'était au moment de la peur liée à la fin du monde maya, le fameux 21 décembre 2012, où le calendrier maya était censé s'arrêter et puis la Terre aussi avec lui, tout allait s'effondrer et à la télévision, dans la presse, dans les médias, on voyait des hurluberlus, des fanatiques de l'apocalypse, les survivalistes en fait qui étaient interviewés, qui montraient leurs préparatifs pour cette fin du monde là, et il y avait une sorte d'image d'Épinal en fait, une sorte de rengaine qui était présentée. C'était des fous, c'était des parano qui allaient à Bugarache, un petit village dans l'Aude, étant donné que c'était la rumeur, hein. Soit la Vierge Marie, soit des extraterrestres, les aliens, en fait, allaient nous sauver sur le pic rocheux du Bugarache. Alors moi, je voyais ça et je m'intéressais donc aux imaginaires des catastrophes dans le cadre de ma thèse, et je discutais avec des amis, je discutais avec des collègues de l'université de cette mouvance-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de discrépance, il y avait quelque chose d'un décalage en fait entre ce qui était représenté dans les médias et la réalité du mouvement survivaliste, étant donné que les personnes que j'ai pu rencontrer en 2012, les survivalistes donc, étaient des individus très rationnels, des individus qui étaient comme moi, des collègues à l'université, qui avaient non pas une vision complètement folle de cette fin du monde, mais une vision assez construite sur la base de rapports scientifiques, sur la base d'une connaissance rationnelle du monde.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont plutôt éduqués en fait. Au final, ce qu'on appelle les survivalistes, oui, on peut appeler ça les survivalistes. Ce sont des gens qui sont plutôt éduqués ou on retrouve toutes sortes de classes sociales.
À l'origine, en fait, les survivalistes vont regrouper, on va dire, une seule classe sociale, les WASP. Hein, le fondateur du mouvement, Donald Eugene Sisko, qui se faisait appeler Kurt Saxon, entendait préparer les apprentis survivalistes à la plus grande menace, la menace rouge, mais aussi à d'autres menaces, la menace liée à la prostitution, à l'alcoolisme et aussi à la menace migratoire. C'était un individu qui était membre du parti nazi américain, un individu qui était vraiment infréquentable, on va dire. On retrouve encore des vidéos de lui sur YouTube, on retrouve dans ses livrets quelques techniques de survie, autrement dit, préparer des bombes, piéger des lettres, etc. etc. Il a été inculpé pour terrorisme. Cet individu, en fait, disait il y a une seule population qui doit survivre, c'est les WASP, hein, ça allait pas plus loin.
Là, forcément.
Oui, voilà. Non, mais c'est assez intéressant. Ces livrets, c'est une forme de scoutisme. Hein, ces petits livrets, ces vidéos qu'on retrouve, il nous apprend à bivouaquer, il nous apprend plein de choses, mais c'est très orienté, en fait. Cependant, c'était orienté que sur une seule menace, une seule peur. Quand j'ai découvert le mouvement survivaliste, alors certes, c'était la fin du monde du calendrier Maya, mais il y avait aussi d'autres formes de peur, d'autres formes d'angoisse. On avait vécu la crise économique de 2007-2008. On était en train de redécouvrir la crise écologique. Et là, en fait, c'est le mouvement a forcément, a de facto changé, en fait, étant donné que c'était pas une seule population qui était touchée par cette angoisse-là, par cette peur de fin du monde. Tout le monde pouvait être touché. Quand j'ai découvert le mouvement survivaliste, et c'est là que ça, en fait, ça m'a un peu choqué, ça a un peu chambouler mes certitudes sur la chose, c'est que justement, on n'avait pas affaire uniquement à des paranos, on n'avait pas uniquement affaire à des individus arriérés ou autres, bien au contraire, leur peur était construite, leur peur était basée sur des rapports scientifiques, et je dirais même qu'il y a eu une éducation. On n'est pas survivaliste, on le devient. Il y a une éducation au survivalisme. Et pour être sensible à ces thèses-là, forcément, les survivalistes le disent aussi, il ne faut pas être un mouton, il ne faut pas être aliéné à la société de consommation, à la routine du métro, boulot-dodo, ou être affalé en permanence sur son canapé, regarder la télévision et autres. Il faut s'intéresser à l'état du monde. Et donc, c'est quelque chose d'assez original dans cette culture réac, quand même, qui est toujours assez réac, hein, qui est toujours orienté très à droite. C'est-à-dire que on développe des fantasmes de fin du monde quasi religieux, mais ces fantasmes-là sont construits scientifiquement. Il y a une sorte de d'ambiguïté dans le discours, une sorte de continuité entre l'angoisse, la peur scientifique rationnelle et les délires millénaristes, les délires religieux dans le discours survivaliste. C'est pas tous des individus éduqués, parce que aujourd'hui, alors c'est pas le bon terme peut-être de dire des individus éduqués, mais ils sont pas tous, ils vont pas tous construire leur peur sur des rapports scientifiques, car aujourd'hui, en fait, le survivalisme est en train de devenir très pop. Il y a des jeux de survie, il y a des émissions de télé-réalité, il y a le cinéma, la fiction regorge, en fait, de scénarios apocalyptiques et autres. On peut être sensibilisé au survivalisme par la fiction, par la pop culture et autres, mais c'est vrai que il y a une construction assez rationnelle, assez pragmatique de la peur quasi-religieuse, de la peur de l'apocalypse, en fait, chez le survivaliste.
Et du coup, tu parlais de fiction. Mmh. Moi, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si tu sauras répondre. En même temps, elle est un petit peu complexe, mais je pense que tu t'es posé la question néanmoins. Pour toi, c'est quoi le rôle des films de science-fiction des années 70 qui ont été extrêmement dystopiques et qui ont invité quand même cette tendance du survivalisme. Mais aujourd'hui, tu le disais aussi, c'est vrai que, et c'est très étrange, comme on est attiré par ces films dystopiques, parce que déjà, on est en période de transition, donc c'est un petit peu compliqué, mais toi, tu es aussi un sociologue de l'imaginaire. Tous les imaginaires qui sont projetés, et donc qui font société, finalement, c'est des imaginaires dystopiques, donc dans lesquels, effectivement, on se dit, Wow. Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est d'abord l'impact, selon toi, des films de science-fiction des années 70 et aujourd'hui aussi l'impact de la fiction, que ce soit des séries, des films, je pense à Walking Dead, enfin bref, il y en a tellement, en fait, c'est mmh. tellement... voilà, ce film avec Will Smith dont j'ai perdu le nom, enfin, il y en a tellement, tellement que c'est quasiment impossible de faire la liste.
Bien sûr. Ouais. Notre société, en fait, regorge hein, de ce genre de fiction-là. Alors, je pense qu'il y a de multiples raisons de tout cela. Hein. D'une part, hein, il y a la fonction cathartique hein, de ces fictions-là. Ça nous permet d'évacuer notre stress, ça nous permet d'évacuer nos angoisses sur l'écran et peut-être de un peu mieux les maîtriser. L'un des fondateurs de la sociologie de l'imaginaire, Gilbert Durand, disait que ça participait d'une euphémisation du mal. C'est-à-dire réduire, minimiser le mal par une forme de maximisation, c'est-à-dire par la technique de représentation, par l'excès, par les effets spéciaux, par les multiples mises en destruction du monde. Ça nous permet en fait de dire bon ben voilà, je l'ai vu et maintenant si ça arrive, si un jour ça arrive, ben je pourrais un peu maîtriser ça ou en tout cas du moins dans mon cogito, dans mon fort intérieur, j'aurais un peu moins peur. Il y a aussi, bien sûr, une fonction d'alerte à toutes ces fictions-là, hein, Soleil Vert et bien d'autres, hein, nous parlent peut-être plus du présent que d'un futur fantasmé. La science-fiction, les fictions catastrophes hein, ont toujours anticipé notre avenir, ont toujours, en tout cas, fait œuvre de monstration de notre avenir. Pour la culture survivaliste, en fait, il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que ça devient une forme, en fait, de stock de connaissances. Les survivalistes sont des individus qui construisent des scénarios apocalyptiques en permanence. Le principe du survivalisme, c'est de mettre, ils disent, hein, les survivalistes, de mettre ses lunettes de pessimiste et de regarder tout ce qui nous entoure, de regarder l'avenir, toujours voir le négatif. Face à ça, notre présent, notre avenir n'est pas si négatif que ça. Les historiens, à l'instar de Steven Pinker, dans Le Triomphe des Lumières, le dit, hein, on va quand même de mieux en mieux. On a, au niveau de l'éducation, de la culture, de la santé, les progrès sont indéniables. Mais les survivalistes qui vivent en fait dans une forme de présent et de futur négatif, de vision toujours pessimiste du monde, ont besoin d'avoir des sources de connaissances, des stocks de connaissances à leur préparation. Pour les survivalistes, et ça on le voit dès l'origine du mouvement, la fiction fait office de base sur laquelle ils vont organiser leur quotidien, vont gérer leur stock, vont même, et c'est là où ça peut devenir dangereux, parce que la plupart de ces fictions vont mettre en avant une idée, l'homme est un loup pour l'homme. Je pense, tu as parlé des fictions des années 70, avec Mad Max, etc. Quand la catastrophe arrive, les fictions nous présentent en fait le retour à la barbarie, le retour à un état de sauvagerie, et ça, chez les survivalistes, c'est un grand écho, en fait. Alors, si dans l'imaginaire collectif commun, on va dire, cette fonction d'alerte, faites attention, notre société est très fragile, elle peut s'effondrer, et puis il faut préserver dans notre société, c'est ce qui est dit par ces fictions, ce qui est dit par Soleil Vert, ce qui est dit par Mad Max, parce que je crois que c'est dans le Mad Max 2, sans pétrole, sans énergie, l'homme retourne à un état de barbarie. Pour les survivalistes, la fin du pétrole, la fin de l'énergie, c'est certains. Ils organisent leur quotidien autour de cette idée fixe-là. Ils ne vont pas dire « bon, il faut faire attention », ils vont dire « ce qu'il faut faire, c'est se préparer à ce retour à la barbarie ». Il faut se préparer à l'opportunité, à cette idée que quand tout va s'effondrer, eh bien, il va falloir que je me défende. Il faut se préparer à cette idée que l'autre va devenir mon ennemi, ce qu'ils appellent le zombie, ce qu'ils appellent en fait un deserve to die, une personne qui mérite de disparaître, et s'il ne mérite pas de disparaître, eh bien, je dois le faire disparaître.
C'est assez fou, parce que du coup on peut hypothéquer et on peut supposer l'armement derrière, etc. Alors qu'en fait, en réalité, quand on regarde de manière empirique, ce qui se passe quand il y a des grandes catastrophes naturelles, en fait, les gens s'entraident. Donc, l'homme n'est pas nécessairement un loup pour l'homme, juste pour les personnes qui nous
bien
écoutent.
Sûr, bien sûr.
En même temps, tu disais que c'est un mouvement réac. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi, et on parlera des ultra-riches par ailleurs, mais qui commencent à chercher une forme d'indépendance, qui se rejoignent en tribus, qui font des... tu vois, des fermes où ils veulent être un peu off-grid. Est-ce que ça, c'est du survivalisme? Est-ce que c'est complètement à côté de la plaque? Est-ce que toi-même, par rapport à la crise du vivant qu'on est en train de traverser et qu'on va traverser nécessairement dans les années à venir, ça t'alerte pas? Comment toi, tu réagis par rapport à tout ça?
Alors,
Je t'ai posé plusieurs questions à la fois.
Non, j'ai bien compris. Parce que c'est quelque chose qui me marque aussi. Hein. J'ai été marqué par le survivalisme. Je suis pas devenu survivaliste, mais je comprends en fait que leur angoisse, leur peur, leur constat sur le monde ne soit pas forcément faux, même si sur certains points il est délirant, il est paranoïaque ou autre. Hein. La crise du vivant, la crise économique, on va y passer, et si ce n'est pire avec ce qui se passe en Ukraine et en Europe de l'Est. Je pense que les solutions, les imaginaires développés par le survivalisme ont quelque chose de rationnel dans notre société, ont quelque chose, ça doit nous parler, il y a quelque chose qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas faire l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le survivalisme, aujourd'hui, n'est plus influencé par ces grands leaders, par ces grands gourous, et donc prend de multiples formes. Le survivalisme, en fait, dans sa critique de la modernité, dans sa critique de l'industrialisation, dans sa critique du progrès technique, industriel et autres, a raison, mais va en fait n'arrive pas à se fixer et peut bien sûr aller vers des formes d'utopie communautaire, des utopies écosophiques, on pourrait dire, des certains retours à la terre, des retours à des formes un peu plus authentiques, autonomes, un peu plus sensibles de rapport au vivant et aux choses. Le problème, c'est que derrière les imaginaires survivalistes, il y a une forme d'angoisse qui est cultivée, une forme de peur, d'incapacité, en fait, à trouver des solutions. Je te le disais tout à l'heure, le survivaliste, en fait, voit toujours le futur en négatif. Ils le disent, en fait, hein, les survivalistes. Alors, c'est bien de retourner à la terre, c'est bien de faire peut-être de la permaculture, de s'organiser en communauté, de réinvestir des villages anciens pour faire de l'agriculture plus raisonnable, etc., etc. Cependant, beaucoup vont dire, oui, mais ça, c'est inutile parce que quand tout va s'effondrer, ben, l'homme va redevenir un loup pour l'homme. On va devoir forcément se défendre, on va devoir forcément être attaqué par les urbains qui n'auront pas compris l'urgence des temps, on va forcément devoir vivre en fait dans cet univers, dans ce vivant contaminé, etc., etc. Il y a toujours en fait quelque chose, un nouvel événement négatif qui vient alimenter la paranoïa et l'angoisse du survivaliste, qui fait qu'il faut voir un peu plus loin, il faut voir un peu après, et ce plus loin, cet après, c'est une forme en fait de combat permanent en fait.
Et alors, la question que je me pose naturellement, parce qu'en fait, quand tu parlais de, il faut se préparer. Est-ce qu'il y a, enfin, selon les survivalistes, des manières de bien se préparer? Tu parlais tout à l'heure de bunkers, de créer des réserves de nourriture. J'imagine qu'il y a des personnes qui font déjà ça. Enfin, pas en France, j'en sais rien, mais aux États-Unis, on le voit bien. J'imagine que ça arrive partout, un peu en Europe. Comment, selon les survivalistes, on se prépare à cette situation qui sera, ouais, je ne sais pas comment l'appeler en fait, apocalypse.
Alors il y a de, oui, ils appellent ça le Teotihuacan, the end of the world as we know it, la fin du monde tel que nous le connaissons. ou la rupture de la normalité. Alors c'est intéressant parce que c'est un terme qui va regrouper toute forme de survivalisme et toute forme de préparation en fait. Essentiellement, pour se préparer à cette rupture de la normalité ou au teotihuacan, il faut toujours anticiper. Le survivalisme est une culture de l'anticipation catastrophiste, de l'anticipation négative, hein, qui est en rupture complète avec nos imaginaires du progrès. Imaginaire du progrès qui disait que forcément avec plus au fil du temps, avec plus d'industrie, plus de technique, plus de science, on allait toujours mieux. Les survivalistes disent qu'il faut toujours voir le pire, toujours être dans cette perspective, c'est-à-dire que bon, tout peut arriver tout le temps, et c'est ça, être bien préparé, créer des scénarios permanents. Je prends ma voiture, je peux avoir un accident. Je sors en ville, tout se passe bien, mais je peux avoir un AVC. Voilà, on est toujours dans cette perspective-là. J'ai une usine à 30 km de moi, c'est une Céveso 2, c'est une Céveso 1, c'est une usine, c'est une centrale nucléaire, ça peut péter du jour au lendemain. Il faut toujours imaginer le pire et toujours anticiper et avoir sur soi le matériel adéquat pour s'en sortir. Essentiellement, c'est des choses assez rationnelles, c'est des choses assez justes qu'on va retrouver, qui sont indiquées comme nécessaires par les instances gouvernementales, c'est-à-dire avoir des doubles de ses papiers, avoir le double de ses clés, avoir peut-être de quoi se signaler, avoir une couverture de survie, on nous demande de l'avoir dans notre voiture, avoir de quoi se signaler si on a un accident de la route et autres, mais c'est aussi dans l'imaginaire survivaliste des choses qui peuvent être parfois beaucoup plus délirantes, beaucoup plus jusqu'au boutiste, avoir un couteau, avoir une arme, des combinaisons hazmat contre les risques bactériologiques, nucléaires et chimiques, etc., etc. C'est une culture en fait du stock, une culture matérielle, on pourrait dire. Donc avoir toujours quelque chose sur soi, mais l'essentiel pour le survivaliste, ce n'est pas simplement une culture de l'avoir dans ses stocks, c'est aussi une culture du savoir-faire. Ce qu'il faut, c'est maîtriser des compétences, ce qu'ils appellent la résilience. Chez les survivalistes, il faut maîtriser des compétences, savoir faire du feu, reconnaître les plantes, ça fait partie des plus grandes compétences. Mais aussi, chez certains, c'est savoir survivre, savoir être un leader, ou ce qu'ils appellent savoir réveiller son instinct primitif. Dans leur imaginaire, c'est assez simple, c'est aujourd'hui est lourde catastrophe, demain sera pire, donc c'était mieux avant. Et c'était quoi avant? Là, c'est aussi un grand fantasme du survivaliste, c'est quand on était moins soumis à la pression de confort de la société de consommation. C'est quand on savait passer l'hiver, comme nos grands-parents, nos ancêtres. Alors ça aussi, c'est une construction un peu imaginaire, une fantasmatique qui oriente le quotidien des survivalistes. Mais de manière générale, en fait, c'est se débarrasser de tous les oripeaux de la société du confort, de consommation, réveiller le primitif qui est en nous, et c'est comme ça qu'on arrivera à survivre. C'est ça l'idéal de la préparation survivaliste.
C'est marrant parce que quand je t'écoute, je me dis, putain, en fait, j'ai pas le même système de pensée, mais en fait, d'un autre côté, je me dis, mais quand même, tu vois, je t'écoute et je me dis, mais quand même, c'est quand même un juste retour de balancier, de se dire qu'il faut reconnaître les plantes, qu'il faut savoir faire du feu, qu'il faut savoir... Enfin, tu vois, ça me semble assez cohérent, parce qu'en fait, on a été tellement coupé, entre guillemets, de la nature. Moi, enfin, tu vois, et pour la majorité des urbains, moi y compris, on ne sait plus très bien ni planter quoi que ce soit, faire pousser quoi que ce soit. Et je suis pas si loin finalement moi-même de me dire bah ouais en fait si j'avais des enfants demain j'aimerais bien leur apprendre des choses aussi simples que reconnaître les plantes et pas reconnaître les pubs dans les magasins enfin et je trouve ça c'est très étrange en fait.
Oui, non, mais ils n'ont pas forcément tort. Hein. Je pense qu'ils ont on a été réellement coupé. On a été, on vit dans une société presque, comme le philosophe Gunther Anders le dit, fantomatique, hein, de la déréalisation. Matthew Crawford, hein, auteur de Contact, le dit, on a perdu le contact avec les choses. On vit dans une société non seulement des réseaux sociaux virtuels, hein, mais aussi de la virtualisation de toutes les choses, de notre rapport aux choses. Nous pensons beaucoup, mais nous ne savons plus faire grand-chose. Et ça, je pense que les survivalistes sont symptômes, en fait, enfin, en tout cas, sont la critique et le symptôme de cela. Et sur certains points, ils ont raison. Mais voilà, on peut retrouver ça aussi dans le mouvement des makers et autres, hein, cette volonté de retourner aux choses, de savoir faire soi-même. Le do-it-yourself des punks, c'est aussi ça. Le problème, c'est que le survivaliste va colorer ça, en fait, d'une pensée apocalyptique. C'est bien de savoir reconnaître les plantes, c'est bien de... ça nous fait du bien dans ces périodes voilà, où ces périodes, on a connu le confinement, des choses comme ça, on était devant nos écrans, et des choses comme ça, on a rêvé de partir dans la forêt, de partir dans la nature. Certains ont pu le faire. Ça nous soulage, en fait. On retrouve une certaine authenticité, une résonance entre nous et le monde, hein, quand on part faire une petite balade dans la forêt. Mais on va pas colorer ça comme les survivalistes, de dire voilà, ben si je fais pas ça, tout va s'effondrer. Si tout le monde ne fait pas ça, tout va s'effondrer. Notre société vit très bien et quand même est très résiliente dans son rapport à l'immatériel. Notre société virtuelle, notre société qui n'arrête pas de penser, qui n'est pas vraiment dans le faire, c'est une société qui produit de la richesse et qui, par ce fait-là, en fait, peut continuer très longtemps, en fait.
Est-ce que... on parlait tout à l'heure des typologies de personnes et de leur... enfin, de qui ils étaient. Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce qu'il y a des genres? On a parlé tout à l'heure des niveaux de diplôme, donc on s'est bien dit que ça pouvait être plein de typologies de niveaux, on va dire, mais quand même pas mal de personnes qui sont éduquées, l'air de rien. Mais sur les âges, les genres, et aussi il y a une question que je me pose sur la spiritualité. Est-ce qu'il y a un lien entre la spiritualité et le survivalisme? Je pense en particulier aux communautés qui sont pas nécessairement religieuses au sens de dogmatique, mais qui sont par contre très spirituelles.
Alors il y a une recherche de spiritualité dans le survivalisme, hein, étant donné que le mouvement se construit sur la critique de notre société qui a perdu le sens des choses, qui a perdu le contact, qui a perdu en fait l'essentiel. Ils vont parler en fait d'une société de la superficialité qui est en rupture complète avec la nature, avec ce qu'ils appellent la verte. La verte, en fait, c'est l'autorité suprême de la nature. Derrière ça, en fait, pour être survivaliste, il faut savoir renouer avec sa nature, il faut renouer avec les traditions. Bon, alors bien sûr, il peut y avoir certaines limites quand on dit retour à la tradition. Le survivalisme est un imaginaire très nostalgique du c'était mieux avant, et donc à partir de là, qu'est-ce que c'était avant? Ben, on rentre dans des fantasmes, on rentre dans des dérives identitaires et autres. Mais de manière générale, en fait, les survivalistes sont des individus qui critiquent notre société et qui n'arrivent pas à se reconnaître dans ses impératifs, ses normes, ses valeurs, et estime, et c'est là pour moi le point de vue spirituel du survivalisme, ou le point de vue le plus religieux, estime que il y a une utilité à la fin du monde. Il y a une opportunité à l'apocalypse. Elle permettra, en fait, d'avoir valeur de révélation de bon comportement, de révélation d'un homme nouveau, le survivaliste. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le désir de catastrophe. Les survivalistes, en fait, estiment qu'aujourd'hui, tout va mal et que ce sont eux les victimes. Nous autres, les consommateurs, les urbains, les chercheurs, par exemple, journalistes, universitaires, nous profitons bien de cette société qui va bien, mais quand elle va s'effondrer, nous serons en fait les prochaines victimes, et les survivalistes qui sont aujourd'hui les victimes de la société du métro boulot-dodo, de la société de la virtualisation, dans le monde du Teotwaki, dans le monde de post-apo, seront les leaders, les grands gagnants, les élus de la fin du monde. Derrière ça, en fait, c'est intéressant de regarder les profils qui vont être touchés, parce que notre société, c'est une société urbaine, c'est une société des réseaux, c'est une société de la technique, et les survivalistes n'acceptent pas ça. Pourtant, en fait, assez paradoxalement, là où le survivalisme se développe, c'est en ville, c'est sur les réseaux, et c'est issu d'un imaginaire très technicien, on pourrait dire. La plupart des individus que j'ai pu rencontrer étaient des individus qui disaient « quand tout va s'effondrer, il faudra retourner à la nature. Quand tout va s'effondrer, il faudra retourner à la tradition. » Mais c'était des individus qui n'avaient pas connu la nature, qui n'avaient pas connu la tradition et qui la fantasmaient, étant donné qu'ils étaient là où ils avaient vu, ils étaient urbains, et là où ils avaient vu, là où ils avaient imaginé, fictionalisé, scénarisé en fait ce retour à la nature, c'était à travers les fictions, c'était à travers les contes de l'enfance, la forêt de Blanche-Neige et les sept nains, etc. etc. Autrement dit, le survivalisme en fait est une culture qui critique le mode de vie urbain, mais qui est issue elle-même du mode de vie urbain et qui fantasme en fait un retour à la nature qu'elle n'a jamais connu, un retour à la tradition qui n'a jamais été connu par ses membres.
C'est vraiment fou. Et sur les genres, est-ce qu'il y a entre hommes et femmes, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est plutôt masculin, plutôt féminin?
À l'origine, le survivalisme
c'était très malin. Ouais.
C'était très voilà, très viriliste, très masculiniste. Ça l'est encore. Hein. Il y a un amour pour la tenue militaire, pour le phrasé acronymique des militaires. C'est une culture très viriliste. Hein. Le Teotwaki, le BAD, la base autonome durable, le bob, le bug out bag, le sac qu'on va toujours porter sur soi. Qui va nous permettre de l'évacuation et autres. Le fait de faire des scénarios, des choses comme ça, toujours catastrophe. On est dans d'un amour pour la culture militaire. Cependant, au fil du temps, les survivalistes qui, certes, s'ils construisent des fictions un peu folles sur la fin du monde et autres, qu'ils vivent dans un imaginaire complètement délirant, n'en demeurent pas moins rationnels. Les survivalistes le disent, si aujourd'hui, moi, je suis prêt, que j'ai toujours de l'électricité, que j'arrive à maintenir ma normalité alors que tout s'est effondré, que vont devenir, si j'ai une femme, que va devenir ma femme, que vont devenir mes enfants, que vont devenir mes voisins, que vont devenir mes amis et autres quand tout sera effondré? Bien, si je ne les aide pas à se préparer maintenant, ce sera des zombies, ce sera des ennemis à ma propre survie dans le monde d'après. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une forme de prosélytisme, mais il y a une forme de relation très utilitariste à autrui dans la préparation survivaliste qui dit l'idéal aujourd'hui, c'est que tout le monde devienne survivaliste. Et ça explique en fait le succès de revues. Il y a la revue Survival, il y a le salon du survivalisme qui a lieu à Paris tous les mois de mai, si je me souviens bien, où là, on cherche en fait à convaincre le plus de monde possible à devenir survivaliste. Et de facto, en fait, si à l'origine, c'était une culture vachement orientée au niveau du genre, aujourd'hui, alors, je crois que les chiffres, hein, c'est 60-70% quand même d'hommes hein, dans cette culture survivaliste. Les chiffres en témoignent encore, mais c'est en train quand même de changer, et cela d'un point de vue assez rationnel, parce que le problème, c'est que l'autre, dans ce monde d'après, soit il est un ennemi, soit c'est un boulet qu'il faudra prendre en charge. Et donc, l'idéal, en fait, c'est soit de s'en séparer, ou soit de le préparer à soit qu'il soit aussi fort que le survivaliste, qu'il soit aussi fort que nous, disent les survivalistes. Et donc, à partir de là, le mouvement, en fait, tend à accepter des individus, quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine sociale, géographique, culturelle et autres.
Et alors, dans ce que tu dis, c'est marrant parce que ça me fait penser à Rambo ou à Bear Grylls, qui sont des figures de proue, j'imagine, de cette forme de survivalisme. Je sais pas, de l'œuf ou de la poule, si ce genre de personnage, fiction d'un côté, documentaire de l'autre, renforce l'imaginaire et donc projette encore plus dans cette idée qu'il va falloir survivre. Ou est-ce que le succès s'explique parce que les gens ont peur? Donc est-ce que ça a du succès parce qu'ils ont peur, ou est-ce que c'est parce que ils existent que ça renforce la peur? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je pense que oui. C'est difficile à dire, et je pense que oui, c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans les deux perspectives, hein. On est dans les deux visions. Il y a un succès, il y a un devenir mainstream du survivalisme, étant donné que le capitalisme aime à se nourrir de sa propre critique. À l'origine, les survivalistes critiquaient profondément la société de consommation. C'est ce qui fait de nous, disent-ils, des assistés du confort, c'est ce qui fait de nous des prisonniers. Ils qualifiaient la société de consommation, ils qualifient encore la société de consommation de forme de mutilation de nos instincts, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va retrouver en fait beaucoup de survivalistes qui consomment ce genre de fiction-là, dans le domaine du jeu vidéo, des choses comme ça. Il y a beaucoup cette tendance-là. Le problème derrière, c'est que de montrer un avenir tel qu'il est montré dans les The Walking Dead et autres participe à aiguiser l'imaginaire survivaliste. Et c'est vrai qu'en fait, toutes les fictions catastrophes, toutes ces téléréalités nous disent, hein, s'il y a une leçon à tirer, c'est que quand l'homme en fait est confronté à l'apocalypse, à cette fin du monde, il doit réveiller ses instincts les plus primaires, les plus négatifs pour survivre. Il faut se défendre en permanence, l'autre est un ennemi, l'autre est un danger, alors que c'est vrai que dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Mais ça, c'est lié aussi, c'est un impératif, on va dire, cinématographique, lors de la production. On ne va pas montrer une apocalypse qui se passe bien. Ça n'attirerait pas grand monde dans les salles, je pense.
Qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk, de Jeff Bezos, qui commence à construire des navettes pour aller vivre dans l'espace ou potentiellement aller vivre sur Mars?
On est aussi dans cette idée très survivaliste que il n'y a plus rien à tirer de notre société. Quand tout va s'effondrer, on ne pourra plus reconstruire. Il va falloir repartir pour ceux qui seront restés sur Terre, les survivalistes, parce que les survivalistes ne sont pas dans cette optique-là que de partir dans la Lune, partir sur Mars ou ailleurs. Voilà, il va falloir accepter de vivre sur des cendres. Alors les ultra riches, certains ont peut-être déjà tout anticipé, ce que nous disent les survivalistes, mais oui, on est dans cet imaginaire qui a été décrit par Jean Baudrillard de l'évacuation. Notre société est terminée, sur le déclin, on est dans une grande nostalgie, on est dans une incapacité de se projeter dans l'avenir, et la seule solution, c'est d'aller voir ailleurs. C'est d'aller voir ailleurs, alors soit d'un point de vue survivaliste, en spatialisant en fait l'apocalypse, en disant bon ben voilà, tout va s'arrêter, et je m'imagine dans un temps où quand tout sera effondré, soit au fond de mon bunker, soit dans une forêt accueillante, ou dans une ville dévastée, je pourrais repartir sur de nouvelles bases, recréer une nouvelle société. Ou soit, chez certains, Elon Musk, Bezos et autres, notre Terre est en péril. Le constat que font les survivalistes, et la seule solution, c'est de fuir, c'est de partir. Ça fait partie de cet imaginaire survivaliste aussi.
Je sais pas si tu avais lu, il y a eu des articles dans le Guardians qui étaient hyper intéressants sur justement les ultra-riches et le survivalisme. Et entre autres, il y a cette phrase qui m'avait marqué, alors j'ai pas la citation précise, mais qui était les personnes riches veulent échapper au monde qu'ils ont participé à détruire. C'est que je trouve hyper intéressante, mais en particulier, ce qui m'avait marqué, il y avait eu un conférencier finalement qui avait été amené par des ultra riches au beau milieu du désert, et il leur posait la question, mais et une question que franchement beaucoup de gens se posent finalement, mais où est-ce qu'il va falloir vivre, comment on fait pour ne pas être attaqué par les gens qui s'occupent de notre sécurité, comment on fait pour s'assurer de notre survie demain, etc., etc. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Je sais pas si t'avais lu ces articles, mais j'ai trouvé ça passionnant en fait, de voir que les ultra-riches cherchent aussi à... Ça fait penser aussi à cette série peut-être que tu as vue, brésilienne, qui s'appelle 3%. Tout ça rentre dans cet imaginaire que l'argent va te permettre d'échapper finalement à la crise du vivant.
Bien sûr. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans l'univers du survivalisme, c'est-à-dire que ils disent, hein, des politiques, des ultra riches ont déjà prévu le plan de secours, ont déjà tout prévu. Nous faisons partie, les survivalistes disent en fait, de cette masse qui est complètement exploitée et qui en fait va servir de paillasson en fait dans cette fin du monde, dans cette fin du monde annoncée. Et donc il faut en fait se préparer individuellement parce qu'on est incapable, on maîtrise pas les mêmes capitaux que ces personnes-là. Je pense qu'en fait, cette idée est passionnante. Le problème, c'est qu'elle participe en fait à s'inscrire dans nos imaginaires sociaux, elle participe à s'inscrire dans nos manières de penser le monde et de facto participe en fait à reconstruire, à raviver l'arène sociale, cette idée que on ne peut plus collaborer, on ne peut plus en fait participer à un avenir commun. Il va falloir se battre pour notre avenir et se battre, ça va être éliminer l'autre. Je pense qu'on est dans cet grand imaginaire survivaliste qui est nourri par la fiction, qui est nourri par les comportements aussi de certains politiques, de certains grands patrons et autres, mais aussi qui est accueilli pleinement, qui est accepté pleinement par nous autres, la population, en disant ben voilà, il y a des problèmes, personne ne veut prendre en charge, personne ne veut collaborer, et donc la seule solution, c'est notre individualisation au rapport de notre rapport au danger, mais aussi de notre rapport au monde. À partir de là, c'est une forme de repli sur soi, une forme de repli identitaire que va développer certains survivalistes, repli sur la tradition, repli sur le fantasme des origines et autres, mais ça participe d'une vision survivaliste du monde, c'est-à-dire très dichotomisante, qui va séparer le monde en deux. Alors chez les survivalistes, il y a les bons et les méchants, il y a les survivalistes et les autres, mais il y a aussi toute cette arène sociale qui est mise en avant, toute cette idée de vivre en société maintenant, c'est combattre.
Et il y a quand même, enfin, pardon, parce que je t'ai déjà posé la question d'une certaine manière, mais j'ai l'impression qu'il y a une position intermédiaire, enfin, ou qui est plutôt collective qu'individuelle, mais qui s'inscrit peut-être pas dans le survivalisme. C'est là où j'essaye de comprendre. Tu vois, toutes ces personnes qui effectivement prennent des fermes, qui recréent des communautés, parce que ça s'inscrit pas dans cette logique individualiste, l'autre est un ennemi, etc. Enfin, j'ai l'impression que ça s'inscrit pas dedans, mais peut-être que je me trompe et j'aimerais bien éclaircir. Est-ce que c'est du survivalisme, par exemple, de vouloir prendre une ferme et de vouloir créer une forme d'autonomie alimentaire et énergétique, ou est-ce qu'on n'y est pas et que c'est juste du bon sens? J'arrive pas à saisir où se trouve enfin, je sais même pas s'il y a une nuance ou une barrière, mais à quel moment tu pivotes dans le survivalisme et à quel moment t'es dans une logique entre guillemets de bon sens?
Alors moi je dirais c'est à partir du moment où C'est toute la vision de l'autre, en fait. C'est à partir du moment où l'autre est vu comme une menace, comme un danger. Alors, c'est à partir du moment où il y a cette vision très manichéenne du monde, très dichotomisante, cette séparation du monde en deux qui s'opère. C'est à partir de ce moment-là où le danger survivaliste guette, en fait. Si je pars vivre dans une ferme et que je cultive mon jardin, ben c'est des mouvements qu'on a déjà vus. Hein, c'est des mouvements qu'on a déjà vus dans les années 70 qui se refont aujourd'hui liés à la crise économique ou à la crise du vivant, à la crise écologique que nous vivons. Je ne sais pas si c'est du bon sens. Hein, je ne sais pas si
oui,
c'est
oui,
du bon
non, pardon,
sens.
C'est moi qui ai dit cette phrase.
Mais en tout cas, on n'est pas forcément dans cette optique survivaliste. Mais à partir du moment où, si je pars dans ma ferme, et je sais que j'ai pu voir, j'ai pu constater ces choses-là, que j'organise mon jardin, que je cultive mon jardin, que je vais faire de la permaculture, je vais essayer d'avoir un puits, des choses comme ça, que je vais m'organiser de manière durable, mais que je commence à protéger mes alentours, que je commence à réfléchir sur cette idée, ben ça va s'effondrer et qu'il va falloir que je me protège, que je commence à les survivalistes le font aujourd'hui, il y a un maillage du territoire en disant, ben quand tout va s'effondrer, il va falloir qu'on cède parce que l'autre va devenir un ennemi. Mais tout vraiment réside dans cette idée de, voilà, qu'est-ce que va être l'autre dans ce monde d'après? Qu'est-ce que va être l'autre quand tout va s'effondrer? Et je pense que c'est là qu'on bascule de quelque chose de l'ordre du bon sens, ou en tout cas d'un comportement inoffensif et peut-être salvateur, à un comportement survivaliste et porteur de danger.
Oui. Je comprends. Et donc oui, il y a ça aussi, ce que tu dis, c'est que le survivalisme, c'est porteur de danger, quand même. Enfin, ces croyances.
Alors, le survivalisme ne va pas précipiter le danger. Le survivaliste ne va pas, certes, il stocke des armes, s'il peut avoir une vision assez délirante et paranoïaque du monde, va plutôt chercher, et c'est dans sa devise, fuir et se cacher. Mais bien sûr, il y a toujours cette optique, au bout d'un moment, quand la chose va arriver, il va falloir combattre. Quand la fin du monde, quand la rupture de la normalité va arriver, ça va être une question de vie et de mort. Les survivalistes, en fait, sont porteurs de danger dans cette perspective. Un danger qui n'est peut-être pas immédiat, mais qui est je dirais, symbolique. Hein. Il y a des personnes, en fait, dans ce monde d'après, mais on reste toujours dans l'ordre de la fiction, parce que les survivalistes projettent en permanence, et c'est pour ça qu'ils sont porteurs de danger, mais pas totalement, en fait, parce que ça reste une culture assez ludique, ça reste une culture de l'enromancement, c'est-à-dire une histoire qui est racontée pour nous sortir de la des langueurs de la société. Mais cette histoire est assez terrible. C'est assez terrible. C'est une histoire de vie et de mort. C'est une histoire de fin du monde dans laquelle il va avoir des personnes qui mériteront de survivre et d'autres, en fait, qui mériteront de disparaître, et cela dans d'atroces souffrances. Et tant mieux, bon débarras, disent les survivalistes aussi.
Mais est-ce que c'est pas... Enfin, parce qu'en fait, ils sont en train de se préparer à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Autant il y a eu des civilisations qui se sont éteintes, hein, je vais pas les lister, mais il y en a eu un certain nombre. Autant cette préparation à l'apocalypse, elle est jamais arrivée. Est-ce que c'est pas un peu comme jouer aux cow-boys et aux indiens quand on était dans la cour de récré, et finalement où on passait on passait le temps de la cour de récré à jouer à qui veut jouer aux cow-boys et aux indiens, mais finalement on jouait jamais aux cow-boys et aux indiens. Tu vois, c'était vraiment, on regroupait les gens, on essayait surtout de créer des tribus de chaque côté, et puis finalement il y avait jamais de jeu. Enfin, techniquement, on n'y jouait pas.
Bien sûr, bien sûr. Je pense exactement ça. Hein. Les rares études qui ont lieu sur le sujet l'ont dit. Hein. Les survivalistes sont plus dans la fiction que dans l'action, en fait. Et l'histoire qu'il se raconte, cette histoire de bah, « demain, tout va s'arrêter, et puis moi qui ai fait des stocks, moi qui ai le bon sac à dos, moi qui ai peut-être une arme, moi qui ai tout le bon matériel et les savoir-faire et les compétences nécessaires à ce monde complètement effondré, je vais devenir un héros, un survivant. C'est exactement ça, hein. C'est des fictions qui sont racontées et qui ont une valeur, en fait, qui ont une fonction, on va dire, dans la société, c'est peut-être de sortir les survivalistes de la disqualification sociale, sortir les survivalistes aussi de l'ennui de la société, du métro, boulot, dodo. Ces fictions, en fait, elles vont occuper le survivaliste le week-end dans des stages de survie, dans sa préparation, dans la gestion de ses stocks, parce que les survivalistes, s'ils aiment bien faire des stocks, bah, ils le voient bien au bout d'un moment, les boîtes de conserve, les viandes séchées, tout ce qui va être, même le matériel médical, en fait, a une date de péremption, mais il va falloir le renouveler. C'est une forme de cow-boys indiens, de scoutisme, de mise en fiction de son malaise social, en fait. De cette idée qu'aujourd'hui, souvent, quand j'ai découvert les survivalistes, c'était le cas, hein. C'était des individus qui étaient comme moi, j'ai découvert ça en 2012, qui étaient à l'université, donc des individus assez cultivés, qui avaient joué le jeu de la société, qui avaient fait 4-5 ans d'études, et qui, en fait, face à eux, avaient quoi comme alternative? Ben, continuer à travailler au McDo, continuer à travailler dans l'épicerie du coin ou au pire aller à Pôle emploi, au mieux peut-être aller à Pôle emploi. Face à ça, en fait, qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait, bon, bah, si tout s'effondrait, bah, ce serait pas si mal, ce serait peut-être mieux que, en fait, l'avenir que la société me réserve. Et donc derrière cette fiction, derrière ce jeu qui est fait avec des futurs alternatifs négatifs, le survivaliste en ressort grandi, ça le soulage presque en disant, bah, voilà, tout va s'effondrer et moi je serai enfin prêt, et tous ces idiots, tous ces moutons qui ont joué ce jeu malsain de notre société, eh bien, ils vont disparaître et on pourra repartir sur de meilleures bases, les bases du survivalisme.
Super, merci beaucoup Bertrand. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
J'aimerais bien claquer la porte au Covid, en fait, là, actuellement.
Effectivement.
Ouais, non, vraiment, ça nous a pris quand même 2 ans de notre existence. On va voir combien de temps ça va nous prendre. J'ai l'impression que ça va durer, et que ça nous pénalise. À l'université, les relations entre les collègues, entre les étudiants a quand même considérablement changé. Les relations avec la famille, les relations avec tout un chacun ont considérablement changé. Je pense que des événements comme le Covid participent à raviver les imaginaires survivalistes, en tout cas dans la vision de l'autre. L'autre est une menace, l'autre est un danger. Avec le Covid, on a vu ça. J'espère qu'on ne va pas avoir une nouvelle vague là au retour.
D'ailleurs, sans vouloir relancer la conversation, mais c'est vrai qu'il y avait ce film Contagion qui avait explosé suite au Covid, en fait. Hein, je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent l'ont regardé, mais ça a vraiment... vraiment explosé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont regardé pour essayer de comprendre aussi. Je pense qu'il y a aussi cette volonté quelque part de comprendre à travers la fiction, mais qui est pas une très bonne idée d'essayer de comprendre la société via la fiction. Enfin, ça peut être une bonne idée, cela dit. Il y a des fictions qui sont intéressantes, mais quand il s'agit de survivalisme, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, effectivement. Merci beaucoup, Bertrand. C'était hyper intéressant parce que c'est vraiment un concept, je trouve, qui prend de plus en plus de place, en fait, dans la société. T'as dû le voir, d'ailleurs, depuis le moment où t'as fait ta thèse et aujourd'hui. Enfin, je sais pas si t'as suivi le mouvement, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment ça prend de plus en plus d'ampleur. Et en même temps, je pense que comme les gens sont un peu perdus, c'est hyper intéressant d'en parler. Donc, merci beaucoup pour ça.
Merci. Merci à vous.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !